l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Quel plaisir de vous retrouver entre 12h et 13h pour ce Présence Midi. Avec au sommaire, eh bien, on partira à Tarbes. Alors retenez bien cette date parce que c'est un grand moment que vous proposent les chanteurs pyrénéens de Tarbes avec leur traditionnel concert de Noël. C'est à l'église Saint-Jean, ça sera samedi prochain, samedi 20 décembre à partir de 21h. Et on en parle avec le chef de chœur Mathieu Carassus qui sera avec nous pour nous parler de ce beau concert. Et puis on y partira dans le Gers. Et particulièrement, il y a une opération, c'est la 5e édition du repas des partenaires et travailleurs du Grand Garros à Auch. C'est une rencontre importante qui a rassemblé plus de 150 personnes avec un terme manger, M-A-N-G-E-R, manger autrement, naturellement, gersois, équilibré et responsable. Vous entendrez l'interview de Pauline Bouillet, elle est co-éco-animatrice et elle va nous expliquer ce projet. Elle sera au micro de Pauline Cazier dans quelques minutes. Et puis on viendra dans la ville de Lourdes pour parler avec Marc Méraud, ce sera l'invité. Marc Méraud est l'organiste officiel de la paroisse de Lourdes et il nous parlera de l'orgue. Voilà toute l'histoire de l'orgue qui était derrière le chœur et puis pendant les travaux qui a été démonté puis remonté cette fois-ci à l'arrière de l'église. On en parle avec lui, toute l'histoire de ce bel orgue, d'où il vient, comment il a été démonté pendant les travaux, comment il a été remonté. On en parle avec Marc Méraud dans Un jour, un livre, un auteur. Mais pour l'heure, on fait un point sur l'actualité de notre région avec l'essentiel.
La grande rue Saint-Michel à Toulouse transformée, devenant plus verte et mieux partagée après 2 ans de travaux. Coup de tonnerre à Montauban, le premier adjoint Thierry Deville évincé à 3 mois du scrutin. Le CODEV clôt son cycle sur les transitions. À Toulouse, pensez une adaptation juste et durable. L'énergie citoyenne en plein essor, c'est le WAC lance un 3e parc solaire sur le COS de Livernon. Un an d'écoute et de soutien, la Maison des Femmes de Toulouse a accompagné plus de 400 victimes. Après 7 ans de fermeture, le musée des Augustins s'apprête à rouvrir ses portes à Toulouse. Un défi sportif en plein cœur de Toulouse, le Hyrox La Dépêche by CrossFit Laramé fait son retour.
Merci beaucoup à Wassim Dir de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse qu'on retrouvera tout à l'heure aux alentours de 12h30 pour le journal régional de la mi-journée. Avant de nous plonger dans l'ambiance de Noël avec ce beau concert qui nous est proposé à l'église Saint-Jean samedi prochain à 21h par les chanteurs pyrénéens de Tarbes, on écoute Yannick Noah.
On veut partir voyager, et puis tout nous manque là-bas. On se jure toujours s'aimer, et puis doucement on s'en va. On se croit dur bien armé, des soldats en chocolat. Des contraires simultanés, encore plus troublants parfois. Le vent des sphères, Et puis vous êtes loin déjà, un instant près comme des frères. Sans vous ne reste que moi, certains soirs dans l'hiver. Des mots qu'enfants on n'écoute pas reviennent, lumière légère, et on lève les bras. Sacrifier pour des jouets qu'on cassera. Quand on veut retrouver la paix, où est le creux de ses bras? Le mal qu'on fait sans faire exprès, c'est fait et voilà. Le tir d'autier m'a maillé. J'en sais rien, c'est comme ça.
Dans la Haute-Ariège, 92.7.
C'est une émission spéciale que je vous propose aujourd'hui. On va se mettre dans l'ambiance de Noël. On va parler d'un très beau concert et qui aura lieu à l'église Saint-Jean, samedi 20 décembre, à partir de 21h. C'est un concert traditionnel que font les chanteurs pyrénéens de Tarbes. Et pour nous parler de ce concert et plus largement de ce cœur d'homme, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Carassus. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors Mathieu Carassus, vous êtes au Sanctuaire quelqu'un de bien connu puisque vous êtes...
Chantre
ici au Sanctuaire. Ouais. Et pour les personnes qui écoutent Radio Présence, c'est la messe de 10h ou qui la regardent sur KTO, bien on peut vous y voir chanter et animer les messes.
Voilà, avec plaisir.
Mathieu Carassus, on va parler bien sûr des chanteurs pyrénéens de Tarbes qui, je crois, sont nés de la SNCF ou des cheminots.
Oui, tout à fait. Dès 1942, un premier groupe qui s'appelait les Troubadours Cheminots Tarbais a vu le jour sur Tarbes. Et ce sont les ancêtres des chanteurs pyrénéens actuels. Voilà, ils se sont immiscés dans un mouvement orphéonique qui avait été initié en 1856 par Willem, un compositeur français, voilà, qui voulait restaurer le chant choral en France. Donc l'histoire des chanteurs pyrénéens date de 1942.
On va parler bien sûr de ce concert qui aura lieu à l'église Saint-Jean et bien pas plus tard que samedi prochain, samedi 20 décembre, à partir de 21h. Le prix des places est fixé, je pas le
15 euros, oui.
Voilà, 15 euros. Chaque fois, c'est plein. Oui. Donc, il faut y aller de bonne heure. Voilà. C'est qualitatif. Vous avez pris, puisque vous êtes le chef de chœur, vous avez pris la place de Bernard Loguès il n'y a pas si longtemps que ça.
Voilà, j'ai pris sa succession au mois de mars. Donc, après, je crois, une bonne quinzaine d'années de direction, Bernard a pris congé des Pyrénéens. Et c'est avec joie que j'ai pu prendre sa succession.
Alors, ce concert se fait aussi avec l'égide de la mairie de Tarbes, je crois. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un concert. Les chanteurs pyrénéens donc font partie intégrante de la vie culturelle tarbaise et avec le soutien de la mairie de Tarbes, ils organisent chaque année ce concert fin décembre pour célébrer Noël et clôturer leur année bien remplie de nombreux concerts.
C'est toujours Éric Fiacre, le président.
Oui, actuellement, c'est toujours Éric Fiacre, notre président.
Le président. Et donc, vous êtes le chef de chœur, on le disait. Quels sont les titres qu'on va pouvoir entendre lors de ce concert?
Alors, il y aura des chants, des grands classiques des Noëls, hein, Douce nuit, minuit chrétien, Dans une étable obscure, La marche des rois mages, mais aussi des Noëls du répertoire pyrénéen, des répertoires traditionnels, catalans, provençaux, et également des Noëls plus contemporains qui nous feront arriver au fur et à mesure du programme sur les Noëls d'aujourd'hui, donc voir comment on vit Noël, comment on vit cette période à travers le chant.
C'est un rendez-vous magnifique pour se mettre dans cette ambiance. C'est le 20 décembre, à 4 jours du réveillon de Noël. On invite bien sûr tous les auditeurs qui veulent passer un moment exceptionnel de venir, se rendre à ce concert. Il faut y arriver de bonne heure, parce que je sais que certains, malheureusement, c'est compliqué quand ils viennent.
Voilà, tout à fait. Les portes seront ouvertes à peu près aux alentours de 20h, une heure avant le concert. Donc, on prévoit d'avoir assez de place, bien sûr, pour tout le public, mais on arrive toujours à un moment donné à l'église pleine.
À l'église pleine, oui, ça fait plaisir, je pense aussi aux chanteurs.
Tout à fait, c'est toujours agréable de chanter devant une belle assemblée.
Est-ce qu'il y a une entracte?
Non, le concert se fera d'un seul tenant, d'une vingtaine de chants, donc à peu près une heure et demie de concert, avec tout un parcours initiatique depuis l'attente des chants sur l'attente de la naissance jusqu'au Noël contemporain.
Jusqu'au Noël contemporain. C'est à l'église Saint-Jean. Alors l'église Saint-Jean, c'est celle qui se trouve pas très loin de la mairie. Hein,
voilà, le centre-ville, entre la place de la mairie et la place Verdun. Oui.
Voilà, entre les deux grandes places. C'est là, on peut y aller bien sûr par le côté rue, mais aussi le côté piéton.
Voilà, par la rue piétonne ou la rue Maréchal Foch. Oui.
Voilà, les deux. C'est ouvert bien sûr à tout le monde. Le prix, on l'a dit, a été fixé à 15 euros. Et donc, on donne bien sûr rendez-vous à tous nos auditeurs qui veulent passer un bon moment à ce concert à l'église Saint-Jean de Tarbes. Donc, samedi 20 décembre, à partir de 21h, on l'a dit, et l'entrée était fixée à 15 euros. Est-ce que j'ai vu que sur votre affiche, il y a marqué qu'on peut réserver avant aussi.
Voilà, tout à fait. On peut réserver via l'office de tourisme de Tarbes pour réserver les tickets et aller les récupérer.
Voilà, et j'ai même vu Ticketmaster.
Il y a Ticketmaster également, vente en ligne.
Vente en ligne également. Donc si vous voulez être sûr de pouvoir assister à ce concert, achetez vos places avant, comme ça au moins vous êtes tranquille avec ça.
Et ça peut faire une idée cadeau aussi pour les futures fêtes.
Exactement. On fera une émission d'ailleurs spéciale avec vous la semaine prochaine, après Noël. Avant Noël, on aura une belle émission avec vous où on va partir à la découverte de ce cœur d'homme. Merci beaucoup, Mathieu Carassus. Très bon concert à vous.
Merci.
Et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci.
Radio Présence dans la Haute Ariège, 92.7. Présence à Gourdon, 104.8.
Récemment a eu lieu la 5e édition du repas des partenaires et travailleurs du Grand Garros à Auch, une rencontre importante qui a rassemblé plus de 150 personnes et qui permet aux associations, travailleurs sociaux, animateurs, commerçants, etc., de se rencontrer et de partager un moment convivial. Cette année, nouvelle formule avec le projet Manger, M-A-N-G-E-R, Manger autrement, naturellement, Gersois, équilibré, responsable. Je vous propose d'écouter l'interview de Pauline Bouillet. Elle est éco-animatrice. Elle nous explique ce qu'est ce projet. Elle est au micro de Pauline Cazier.
C'est la 5e édition qu'on fait ce repas. Ça, on l'appelle le repas des partenaires ou des travailleurs sociaux, des animateurs, de tous les gens qui travaillent de près ou de loin dans le quartier du Garros, en fait. Et donc, ça fait la 5e édition et les gens répondent présents. On va être à peu près 160 aujourd'hui, normalement, si tout le monde vient. Et l'idée, c'est de se retrouver pour discuter, pour se présenter, pour avoir un peu de lien social entre les travailleurs.
Est-ce que... Vous pouvez nous parler parce qu'aujourd'hui du projet Manger, M-A-N-G-E-R. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire avec cet acronyme?
Alors manger, c'est manger autrement, naturellement, gersois, équilibré et responsable. En fait, c'est un projet qu'on a, donc Garros Service a mené avec le lycée Beaulieu-Lavacan. Donc l'idée, c'était, alors on a été lauréat de la caisse d'épargne du coup. Donc on a eu un peu d'argent pour ce beau projet. Et l'idée, c'était vraiment de travailler sur les légumineuses. Pour expliquer aux gens que les légumineuses, ça peut être des produits locaux, c'est pas très cher, ça peut remplacer la viande. Voilà, c'est quelque chose... Alors, l'idée aujourd'hui, c'est que c'est le lycée Beaulieu avec les bénévoles qui ont fait à manger pour midi. Donc on a fait payer 3 euros symboliquement pour voilà et c'est les repas, le repas était en fait choisi au buffet concours qui s'est passé le 14 octobre sur le Garros, sur le quartier du Garros. Donc on a fait un petit buffet concours, les gens sont venus, le lycée Beaulieu aussi est venu. On a récupéré trois recettes qu'on gagnait et donc à midi on mange ces recettes, voilà. Donc
les élèves de Lavacan, Beaulieu-Lavacan, ce sont des élèves de quelle section?
Alors du coup il y a des sapates. Alors ça, je vais pas savoir dire l'acronyme. Et en fait, ils font aussi tout ce qui est agronomie et tout. Donc avec leurs professeurs, c'est eux qui font à manger. Voilà.
Et le choix des légumineuses, c'est quelles sont-elles?
Alors le choix des légumineuses, c'est tout simplement parce que Beaulieu-Lavacan, en fait, ils ont des champs de culture. Ils cultivent les pois chiches, les lentilles. Et pas très loin, du coup, à Laour, on a visité en juillet, on a visité un champ de pois chiches, entre autres. Donc voilà, l'idée vraiment, c'était pour dire, c'est vraiment des choses qu'on peut faire localement et qui ne viennent pas de loin, en fait.
D'accord, donc ce projet Manger, c'est unique ici à Auch ou c'est un peu partout en France?
Non, le Manger, c'est simplement le Garros Service et le lycée qui ont créé ce projet avec ce nom-là et voilà. Mais en espérant, alors chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les recettes, en fait, l'idée, c'est que les recettes, après, on fasse un petit livret de recettes et qu'ils puissent être après transmis aux établissements scolaires pour faire la cantine, en fait, avec les légumineuses. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé avec le chef de Jean-Phi du lycée, voilà.
D'accord. Et ce livret, on pourra ultérieurement le trouver dans d'autres endroits de la ville?
Alors, on espère. Alors là, pour l'instant, c'est encore en projet. On va voir comment on fait. On aimerait bien aussi mettre un... pour que les gens puissent nous raconter leur histoire de la... Donc, mettre un QR code et pour pouvoir entendre les gens parler de leurs recettes. Et après, le livret, on espère pouvoir le diffuser, effectivement. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas trop comment, mais... L'idée, c'est ça, c'est de diffuser ce livret de recettes.
Et une dernière chose, je voulais revenir aux gens qui seront là tout à l'heure pendant ce repas, parce que vous dites qu'il y aura 150 personnes, des associations, expliquez-nous qui aura.
Alors, effectivement, les associations, les travailleurs sociaux, les gens, alors les AD cette année n'a pas pu être là, mais ils sont invités à chaque fois. Vraiment, les gens qui travaillent autour du... Alors, il y a Ciné 32, il y a des gens aussi qui viennent de temps en temps dans le Garros, et on est nombreux, en fait. Et c'est vrai que d'année en année, on voit les gens qui répondent favorablement à notre invitation. Voilà, je pense que le lien social est important et c'est vraiment... Et puis on fait deux fois, donc on fait la période de Noël un peu avant les vacances et au printemps. Voilà, deux moments forts pour se rencontrer.
Voilà, à l'instant, vous avez écouté Pauline Bouillet, éco-animatrice, qui nous a expliqué ce projet, manger, entre parenthèses, donc manger autrement, naturellement, gersois, équilibré et responsable lors de la 5e édition du repas des partenaires et travailleurs du Grand Garros à Auch. Un grand merci à notre correspondante sur le Gers, Pauline Cazier.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr.
On se met dans l'ambiance de Noël avec cette cantate de Noël par le groupe Alliance sur Présence.
Radio Présence dans la Cité Mariale. 96.
Et on retrouve Wassim Dir de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse qui nous présente le journal de la mi-journée. Bonjour Yassim.
Bonjour à toutes et à tous. À Toulouse, la grande rue Saint-Michel fait peau neuve. Après 2 ans de travaux, son réaménagement a été inauguré hier soir. Première artère radiale de la ville à passer en sens unique, elle réserve désormais plus d'espace aux piétons et aux cyclistes, avec 1,6 km de pistes sécurisées. Autre nouveauté, des places de stationnement gratuites sur une demi-heure. Et dès le 22 décembre, la ligne Linéo 4 circulera sur la voie centrale. Plus verte aussi, la rue accueille une quarantaine d'arbres et un système inédit de récupération des eaux de pluie au cœur d'un programme national contre les îlots de chaleur. Coût total de l'opération, 9 millions d'euros. À Montauban, coup de tonnerre politique à 3 mois des municipales. Le conseil municipal a écarté hier le premier adjoint Thierry Deville. Une éviction qui confirme la rupture entre l'élu Les Républicains, désormais candidat, et la maire sortante Marie-Claude Berly. Le Conseil de développement de Toulouse Métropole, CODEV, clôt son cycle de conférences sur les transitions socio-écologiques. Hier soir, une table ronde s'est tenue à la médiathèque José Cabanis. Elle a abordé les stratégies d'adaptation face au changement climatique pour une transition juste et durable. Parmi les intervenantes, Marie-Christine Jaillet, présidente du CODEV, l'urbaniste Hélène Peskin et l'ingénieure Geneviève Bretagne. Ensemble, elles analysent la façon dont le territoire toulousain peut mieux faire face aux vulnérabilités climatiques et sociales. Dans le Lot, la coopérative citoyenne Célewatt poursuit son expansion. Après Bringues et Carayac, elle lance un troisième parc solaire sur le cos de l'Yvernon. Les travaux ont débuté début décembre et la mise en service complète est prévue pour 2027, avec une première production possible dès l'été prochain. Ce projet, financé à 100% par des citoyens, recherche encore de nouveaux sociétaires pour réunir près de 460 000 euros d'ici le printemps prochain. La Maison des Femmes de Toulouse dresse le bilan de sa première année d'activité. Installée sur le site de Purpan et sous la direction de la docteure Marion Vergniaud, elle accompagne les femmes de plus de 15 ans victimes de violences ou en situation de grande vulnérabilité. En un an, plus de 400 femmes ont été suivies, dont 8 sur 10 victimes de violences conjugales. La Maison des Femmes mène aussi un travail de recherche pour mieux comprendre les parcours de ses patientes et adapter l'accompagnement. L'objectif est clair, offrir un soutien global, médical, psychologique et social, mais aussi redonner confiance et dignité à celles qui en ont été privées. Le célèbre musée des Beaux-Arts, en plein cœur de la ville rose, renaît. Après de grands travaux de rénovation engagés en 2018 pour un montant total dépassant les 25 millions d'euros, le public pourra redécouvrir dès samedi ce joyau du patrimoine toulousain, et notamment son cloître du XIVe siècle entièrement restauré. Enfin, la 3e édition du Aerox La Dépêche by CrossFit La Ramée revient à Toulouse. Les 7 et 8 février prochains, le stock papier du journal La Dépêche du Midi se transforme en terrain de jeu pour les adeptes de CrossFit et de course. Un défi intense organisé en partenariat avec CrossFit La Ramée aux inscriptions déjà ouvertes pour les plus motivés.
Merci beaucoup à Wassim Dir de l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse avec ce partenariat avec nos jeunes qui vont devenir d'ici quelques temps de vrais journalistes. Et bien en attendant, ils nous proposent le journal de la mi-journée et ils se débrouillent plutôt pas mal. Un grand merci à eux. Nous allons parler de musique encore ce matin avec Un jour un livre, un auteur. Alors vous allez me dire, on va parler de l'orgue de l'église de Lourdes. Que vient faire l'orgue et la musique dans une chronique littéraire? Eh bien, tout ce qui est couché sur un papier, ça plaît à Philippe Douni et Diego Arabal. Je vous le laisse bien sûr présenter notre invité.
Radio Présence à Pau, 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Douni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur, on se retrouve à nouveau. Diego Arabal, bonjour.
Bonjour Philippe.
Allez, aujourd'hui, une émission, on va parler effectivement de livres, mais aussi de musique. Un petit rappel tout d'abord. C'était un moine italien du XIe siècle, Guido d'Arezzo, que l'on attribue généralement l'invention du solfège. Sans solfège, pas de partition, et sans partition, il serait assez difficile de jouer dans les églises. Aujourd'hui, avec nous, l'organiste de Lourdes, Marc Méraud, organiste titulaire de l'église du Sacré-Cœur à Lourdes depuis 1979. Bonjour Marc Méron.
Bonjour Philippe.
Bonjour Marc.
Et bonjour Diego.
En lisant votre interview, assez étonnante, je dois dire, sur le site Lourdes Cœur des Pyrénées, j'ai découvert que vous aviez un répertoire colossal de 12 000 œuvres et 800 auteurs et que vous aviez chez vous 40 000 partitions. 40 000 partitions. Comment on peut arriver à avoir une telle collection ?
C'est tout simplement le fruit d'années de recherche. Je joue forcément de mon instrument, comme tous les instrumentistes, enfin on commence pas à 20 ans, on commence beaucoup plus tôt. Alors l'orgue, il y a une particularité, on ne peut pas commencer avant 12-13 ans. Une raison toute simple, c'est que comme on joue avec les pieds, avant cet âge-là, on n'a pas des jambes d'une longueur suffisante pour toucher le clavier des pédales, on appelle ça comme ça. Donc voilà, c'est une longue aventure, on va dire, cet instrument. Mais c'est surtout que j'ai écrit beaucoup de livres sur l'histoire de l'orgue, et donc j'ai fait évidemment beaucoup de recherches. Et donc, avec les moyens quand même informatiques que l'on a aujourd'hui, j'ai effectivement collectionné. Parce qu'on ne comprend que si vraiment on va dans le détail des choses, si on joue toujours les mêmes auteurs, finalement on n'avance pas, ni musicalement, ni conceptuellement. Voilà, ce qui fait que petit à petit, j'ai ainsi accumulé et organisé et travaillé. Donc j'en ai effectivement à peu près 40 000. Quand je dis 12 000, c'est 12 000 partitions qui sont prêtes à être jouées au pied levé. C'est d'où d'ailleurs ce qui va m'amener ici, hein, puisque j'ai commencé une série de concerts, parce que je me suis dit que c'était un petit peu dommage de laisser tout ça uniquement pour moi, ça n'a finalement que peu d'intérêt. Certes, je joue les cérémonies liturgiques à Lourdes, bien sûr, donc à peu près 150 services par an, mais dans une messe, on joue 4 morceaux, voilà. L'entrée, l'offertoire, la communion et la sortie. Bon, comme il y a deux messes ou plusieurs messes par dimanche, je joue pas toujours le même offertoire suivant que l'un est plus long que l'autre. Donc en fait, je prévois 5 morceaux. Donc je n'ai que 5 morceaux par dimanche, ce qui finalement fait 250 ou 300 par an, ce qui n'est strictement rien.
Reporté à 12 000, oui, c'est vrai que c'est...
Oui, voilà. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, il y a un tas de musique...
Il faudrait 600 ans, quoi. Je calcule, il faudrait 600 ans, oui, pour arriver à toutes les jouer.
Et comme, alors je m'impose de jamais jouer deux fois la même chose, ni aux messes, ni aux concerts. Justement pour... C'est trop facile, j'allais dire. Enfin, c'est trop facile. C'est surtout qu'on arrive à ce que tout le monde joue un peu la même chose. Voilà. On considère que jouer Bach, évidemment, c'est incontournable. Alors, je suis bien d'accord que Bach, on n'a pas fait beaucoup mieux. Bon, voilà, il y a quelques grandes pièces pour orgue que tous les organistes essayent de jouer. Et dans chaque concert, finalement, ça tourne, entre guillemets, un petit peu en rond. Voilà, donc j'ai essayé de casser ça, de faire un projet original. Et donc d'essayer de jouer un maximum de musique, un maximum d'ambiance, de pays, etc. Et d'époque. Voilà.
Et d'époque. Alors, on va parler de vous, s'intéresser un peu à comment vous en êtes arrivé là, Marc Méron. En lisant sur le site donc Lourdes Cœur des Pyrénées, j'ai vu dans l'interview, vous déclarer les mots suivants. Ce sont vos mots, que je lis, votre verbatim. C'était à Pleuhermel, alors je précise, hein, Pleuhermel, hein, c'est dans le Morbihan, en Bretagne, c'était à Pleuhermel, dans un pensionnat en Bretagne. Il y avait une chapelle avec un orgue. Je m'échappais du sport obligatoire le midi pour aller à l'orgue. Bravo. Et voilà, ça n'a pas beaucoup changé, rajoutez-vous. Alors moi j'ai une question, qu'est-ce qui n'a pas beaucoup changé depuis cette époque, Marc Méron ?
C'est que je m'échappe du sport.
Ah voilà, vous échappez toujours du sport, bon mais ok, bravo, continuez.
Le plus grand sport que je fais, c'est de monter les 49 marches de la tribune de l'orgue plusieurs fois par jour.
Mais voilà. C'est très bon ça pour la santé.
Mais absolument. Mais ce qui n'a pas changé aussi, c'est que je fais beaucoup d'orgues, beaucoup d'instruments. Pendant une quinzaine d'années, enfin 12 ans exactement, j'ai consacré mon temps à l'écriture d'une dizaine de livres. Vous m'aviez interviewé il y a quelques années sur le sujet, donc sur le répertoire d'orgue, de musique liturgique pour l'orgue, et donc sur toute son histoire et ses problématiques. Donc pendant ce temps-là, j'ai un peu moins joué. J'ai travaillé sur les partitions, mais d'abord à les copier pour les éditer, et ensuite, j'ai joué, mais moins, c'était moins l'objectif. Et donc, depuis, notamment aussi que ça va avec le fait que l'église du Sacré-Cœur à Lourdes a été en travaux et revenue, donc l'orgue qui a été mis en sommeil, même enfermé dans des caisses pendant 7 ans.
Et donc, on met un organe de sommeil, on le met dans des caisses. On ne peut pas le laisser.
L'église allait être donc en travaux, donc avec toute la poussière qu'on peut imaginer. Donc il fallait absolument protéger l'orgue. Donc il a été démonté totalement. Et plutôt que de le renvoyer en atelier, ce qui aurait fait des frais de stockage et de transport et les incertitudes aussi du transport, en fait, il est resté dans l'église, mais enfermé dans des caisses.
Voilà. Alors quand on remonte un orgue, c'est vous qui le remontez ?
Ah non, c'est le facteur d'orgue, c'est-à-dire celui qui fabrique l'orgue, ça s'appelle un facteur d'orgue.
Un facteur d'orgue, d'accord.
Un facteur d'orgue, donc pour monter un orgue, il faut à peu près entre 3 et 6 mois. Juste un petit détail, donc, si cet orgue était construit aujourd'hui, il coûterait à peu près 800 000 euros, pour vous donner un ordre de grandeur.
Hors taxe.
TTC. Ou TTC, mais enfin, on est d'accord que ça change.
Ça fait beaucoup.
Ça change pas le fond de la question.
C'est un bon petit prêt quand même, voilà. Auprès de la banque.
Hein. Et le simple remontage de l'orgue a coûté 100 000 euros.
Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est pour fixer un peu les choses. Au passage, l'orgue a changé de place dans l'église du Sacré-Cœur. Il était avant dans le cœur depuis les années 1967, quand l'église avait été refaite. Et à l'époque, l'orgue avait été mis dans le cœur, non pas vraiment pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons économiques, c'est-à-dire il aurait fallu reconstruire une tribune qui était en piteux état, donc ils avaient tout laissé comme ça, et en plus le fait de mettre un orgue dans le chœur, ça dispensait de faire une décoration dans le chœur, et notamment des retables ou des œuvres d'art. Le dernier curé de Lourdes, Jean-François Duhart, enfin, qui a été nommé donc juste avant le l'actuel, avait décidé et entrepris, celui qui a entrepris d'ailleurs les travaux, la rénovation de l'église. Donc il y avait les travaux qui s'imposaient parce que il y avait de grandes gouttières, etc. Et ça menaçait d'être fermé au public. Mais du coup, ils ont profité de cette occasion pour faire une rénovation artistique aussi de l'église. Donc ça, c'est à l'initiative de Jean-François Duhart. Et parmi sa première idée, l'anecdote est assez plaisante, il voulait absolument sortir cet orgue du chœur. Et justement, la petite anecdote, c'est l'une des premières fois qu'il est arrivé dans cette église de Lourdes, il est monté à l'orgue en furie, mais une sainte colère, j'allais dire. pour reprendre un vocabulaire reconnu. Et il me dit, en imaginant probablement que j'allais sortir de mes gonds, il me dit, mais cet orgue n'a rien à faire là, on n'adore pas l'orgue, on n'adore que Dieu. Ce que je conçois fort bien. À quoi je lui ai répondu, la chose la plus simple du monde, mais qu'à cela ne tienne, je vous fais faire un devis tout de suite pour à remettre l'orgue en tribune. Parce que musicalement, en effet, enfin, spirituellement, effectivement, c'est mieux, on est bien d'accord, et musicalement aussi, donc moi, je n'allais pas me faire prier, simplement.
C'est mieux, c'est-à-dire en termes d'acoustique.
En termes d'acoustique, oui, c'est beaucoup mieux. Parce que là, l'orgue qui était placé dans le chœur, à l'époque, ben, il sonne, on va dire que le son attrape les gens de pleine face.
De face.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Le son ne part pas se casser dans les voûtes. Il n'a pas le temps. Il part en ligne droite et il vous arrive comme ça direct. Donc, ceux qui sont dans les premiers rangs, ils ont quand même quelque chose d'assez sonore, on va dire.
Ça fait combien de décibels, un orgue ?
Ça fait un peu tout, mais ça peut vraiment bien monter. J'ai pas le chiffre.
Vous portez des protections acoustiques, vous, quand vous jouez?
Pas du tout.
D'accord.
Ah ben non, mais il faut que j'entende ce que je joue.
Il faut que j'entende. D'accord.
Alors, ceci dit, c'est moi qui entends le moins bien, parce que moi, je suis sur mon banc à l'orgue et je n'ai pas le retour du son.
D'accord.
C'est intéressant,
ça, de savoir. Voilà. Effectivement.
Donc, en général, bon, je suis un peu habitué, donc je sais ce que ça va donner. Mais parce que j'ai entendu d'autres qui jouent, enfin voilà, il faut l'écouter, ou bien à une époque aussi, j'avais placé des micros d'enregistrement pour avoir un retour et voir effectivement ce que ça donnait. Mais avec l'orgue dans le chœur à l'époque, la difficulté était que, bon, ceux qui étaient dans les premiers rangs, le premier tiers de l'église avait une perception très présente de l'orgue, un peu trop. Et par contre, si on arrivait au fond de l'église, il y avait un endroit dans l'église à peu près au tiers où on avait l'impression que c'était même pas du tout le même instrument qui jouait. C'est-à-dire que le son était... Ben en fait, c'est à cet endroit-là de l'église, le son avait eu le temps de tourner, de se casser contre les voûtes, et donc il était complètement différent et plus feutré, moins net, moins perceptible. Enfin,
c'est-à-dire que si on fait trois fois le même concert, aux trois endroits différents que vous citez, on assiste à trois concerts différents ?
Oui, sans exagérer,
un peu.
En tout cas, si on le fait à l'aveugle et qu'on fait des enregistrements, c'est pas sûr qu'on va reconnaître que c'est le même instrument. C'est pas sûr.
D'accord. Mmh.
Sauf si on est peut-être
habitué
et qu'on analyse le son des jeux. Mais sur la perception générale, oui, ça peut être fort différent. Alors maintenant qu'il est en tribune, comme la plupart des orgues, de toute façon, s'ils ont été mis en tribune, c'est bien pas, c'était le meilleur endroit acoustique. Donc le son part, d'abord l'orgue est très haut chez nous, à l'église du Sacré-Cœur, il est à, rien que la tribune, déjà elle est à 12 mètres de haut, 12 mètres 50 du sol, donc l'orgue est encore au-dessus, il fait à peu près 8 ou 9 mètres, donc l'église fait 22 mètres 50, donc... en fait, l'orgue est à peu près, en moyenne, les tuyaux sont à au moins 15, 16, 17 mètres de haut. Donc, ça part dans le haut de la nef et ça va se casser. Et le son, il replonge après. Et la première réflexion de beaucoup de gens quand ils ont entendu l'orgue à le nouvel emplacement, c'était à Pâques 2023. On m'a rapporté ça ou ça m'a été rapporté. Beaucoup de gens ont dit, on se croirait dans une cathédrale. Ça voulait dire, on entend un orgue comme on l'entend dans les grands édifices.
Donc, ce qui est bien meilleur que.
Ah oui, voilà. Il est plus doux, c'est beaucoup dire. Ça reste un instrument puissant et polyvalent, mais il est quand même. Le son n'est pas agressif, voilà. Parce qu'il a le temps d'avoir pris un peu de réverbération dans l'ensemble de la nef, voilà, qui a un très grand volume.
On va parler, Marc Mérou, d'un jour, un livre, un auteur. Donc, on a parlé des livres, effectivement, que vous écrivez. Alors, par contre, ces livres, vous allez nous dire, juste avant que j'enchaîne sur le point suivant, où est-ce qu'on peut les trouver ?
Il suffit de taper sur Internet Marc Mérou, simplement.
M-E-Y-R-A-U-D.
Oui, voilà. D'accord. M-E-Y-R-A-U-D. Je pense qu'on arrive directement. Enfin, de toute façon, sur moi, ça va parler de mon actualité, mais de toute façon, les livres vont apparaître très vite. Donc, le titre, c'est... il suffit de taper « Musique liturgique pour orgue ». Voilà.
Ça coûte combien, juste un ordre d'idée
de... Alors, ce sont des livres qui font 300 pages. Ils sont au prix de 29,50 €. Ce sont de très beaux livres aussi.
À offrir pour Noël, donc.
Format à l'italienne, oui. Alors, les acheteurs, il est vrai... ont été essentiellement, évidemment, des organistes, mais pas que, des chrétiens aussi, parce qu'ils y trouvent l'histoire de la liturgie, l'histoire de toute la tradition musicale, alors non seulement à l'orgue, mais pour le chant, puisque l'orgue souvent commente le chant grégorien pour les pays catholiques et tous les chorales allemands pour les pays protestants. Donc en fait, c'est un bain de culture religieuse au sens large, voilà. Par contre, c'est écrit de manière à ce que ça ne s'adresse pas à des lecteurs chrétiens ou typiquement chrétiens. Chacun doit y trouve son compte. Donc, c'est vraiment des livres culturels, mais après
plus profane, on va dire profane un peu.
Oui, qui s'adresse, mais qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire
au profane et au sacré, d'accord.
On y trouve les informations religieuses, mais au même titre qu'un universitaire travaille sur ce sujet. Voilà.
D'accord.
D'ailleurs, les livres se trouvent dans beaucoup de bibliothèques universitaires de France, d'Allemagne et de bien des pays européens. Voilà.
Alors, on va parler donc les heures d'orgue, l'orgue de A à Z. Je vais présenter, que la feuille ne me tombe pas des mains. Donc, en régie, juste si on peut grossir l'image, s'il vous plaît. Donc, l'orgue de A à Z, donc tous les derniers dimanches du mois, à 16h30,
oui.
Vous effectuez les heures d'orgue. Parlez-nous un peu de cette manifestation musicale mensuelle, s'il vous plaît.
Alors justement, comme on parlait tout à l'heure de mon répertoire assez étendu, je voulais partager ça, mais de façon un petit peu informelle. Donc déjà, ça ne s'appelle pas concert, même si objectivement, ce sont des concerts. Mais mon idée, c'était, je vais tout vous dire même, ma première idée...
On vous a fait venir pour ça, pour tout nous dire, hein, Marc Mérou, sinon...
Nous avons les moyens de vous faire parler.
c'est un rêve qui est totalement irréalisable, mais l'esprit m'est resté. C'était de jouer en continu les 12 000 œuvres, enfin 12 000 ou plus, parce que j'en rajoute tout le temps au fur et à mesure que je travaille. Mais donc, ça aurait été de jouer en continu, parce que moi, je peux le faire. Je peux très bien jouer de 9h à midi et de 14h à ce que vous voulez, d'ailleurs, à 18h, en audition continue. Voilà. pouvez très bien prendre les partitions par ordre alphabétique, ce qui a l'avantage de les mettre dans l'ordre tout à fait aléatoire, en vrai. C'est-à-dire, on va passer d'un auteur italien du 16e à un auteur contemporain d'un autre pays, voilà. Donc, ça mélange tout de façon naturelle. Sauf que voilà, ça aurait pu s'appeler le marathon des orgues. Alors le titre existe déjà à Toulouse.
Ah d'accord, ok. Parce que je trouve que c'est joli, ouais.
Oui, mais voilà, mais en fait ça existe. Mais bon, ceci dit, j'avais pensé sans référence à d'autres manifestations. Sauf que moi je vais jouer, mais je risque d'être tout seul parce que je ne vois pas comment les gens vont être présents, voilà, sur un horaire continu, sur les jours continus, etc. D'autant que l'église de Lourdes n'est pas désaffectée, que je sache. Donc il y a quand même,
il y a des messes.
Elle est quand même très occupée. Donc voilà, il faut se.
Et on peut pas déplacer l'orgue.
Et on ne peut pas déplacer l'orgue, en effet.
On ne peut pas réserver, il n'y a pas des plages de réservation
Alors non, mais à titre... moi, je joue la nuit, je ne joue pas le jour. Enfin, moi, je fais à peu près 35 heures d'orgue par semaine, mais je joue la nuit, bien entendu.
La nuit, c'est de quelle heure à quelle heure?
Ben, la nuit, j'arrive, alors ça dépend, j'arrive vers 20h et je repars vers minuit, 1h. Enfin, je peux arriver plus tôt. Alors, il peut arriver que j'en fasse un peu en journée, enfin, entre midi et 2. Enfin, quand l'église, en fait, j'ai moins de chance d'avoir un enterrement, une messe, etc., et toutes les contraintes.
Donc c'est là où vous échappez du sport obligatoire.
Oui, alors
la nuit qui a lieu le soir pour aller gravir les 49 marches, donc pour monter à l'orgue et donc aller jouer. C'est ça, en fait. Vous continuez à faire ce que vous faisiez à Pleurmel, donc dans le Morbihan, voilà, quand vous étiez jeune. Vous êtes un récidiviste, Marc.
Je suis un récidiviste. Le seul changement, je peux regarder le sport à la télé. Ça, c'est vrai.
Mais, paraît que c'est moins efficace.
Mais ceci dit, quand on voit jouer un organiste, je dis souvent en concert, notamment
c'est du sport.
À l'église de Luz, où on voit l'organiste, c'est l'une des rares églises où on peut voir l'organiste de visu, quoi. Effectivement, je précise en général à mes auditeurs que c'est bien le seul sport que je pratique, parce qu'effectivement, physiquement, ça reste quand même assez sportif. Puisqu'on joue. C'est le fait de jouer avec les pieds, c'est pas le fait de jouer avec les mains qui est sportif.
Puis on se déplace, non, sur le banc, en même temps qu'on...
Alors, normalement, le moins possible. Voilà, on ne peut se déplacer que dans des cas très particuliers. Il existe de rares morceaux pour pédalier solo. Donc, ils sont écrits de façon très, très virtuose. Donc, on joue plusieurs notes en même temps. Alors, on ne peut pas faire plus de 2 notes avec chaque pied, forcément. Parce que, pour donner un petit détail pratique... Un pied, ça a un talon et une pointe. Donc, en général, on joue avec l'alternance talon-pointe ou pointe-pointe, suivant le style de musique. Mais donc, on ne peut pas jouer plus de 2 notes avec un pied. Donc, ça fait quand même 4 notes à jouer avec 2 pieds. Il existe des morceaux, effectivement, où on joue de la musique qui est tout à fait spectaculaire. Donc là, on peut être amené à bouger un peu et à s'accrocher même un peu à son banc.
À son banc.
Mais c'est plutôt un exercice de démonstration.
Qui est fait. Les heures d'orgue, l'orgue de A à Z, tous les derniers dimanches du mois à 16h30, je précise que c'est gratuit.
Gratuit. Non, alors c'est plus que gratuit. Alors comment on peut faire plus que gratuit? C'est-à-dire souvent quand on dit gratuit, c'est entrée libre et il y a quand même un petit panier au fond, au chapeau, comme on dit dans les spectacles. Bon, je n'ai pas voulu qu'il y ait même de chapeau. Donc, il n'y a vraiment aucune quête, rien. Voilà. Chacun vient écouter l'orgue, il rentre, il sort, il fait ce qu'il veut. Et chacun vient y chercher ce qu'il veut. Il y en a qui viennent y chercher du recueillement. Il y en a qui viennent dire. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. L'église est ouverte. Voilà, le dimanche après-midi, j'ai choisi un horaire qui convient un petit peu à toutes les saisons. Pas trop tôt, pas trop tard. Et j'ai quand même gardé mon idée d'audition continue. Vous voyez, l'orgue de A à Z, j'ai gardé l'idée alphabétique. Donc, par exemple, le prochain concert, c'est le dimanche 30 novembre, et puis, etc., le 28 décembre, etc. Donc, j'ai fait le premier déjà en 26 octobre, je crois. C'était sur les compositeurs. Alors, c'était pas la lettre A, c'était les compositeurs qui n'ont pas de nom, les anonymes, parce qu'on a pas mal de musique, alors notamment ancienne, où on n'a pas l'auteur.
Et vous voulez rentrer dans quelle lettre de l'alphabet alors?
Ça tombait bien, donc je les ai fait au début.
Anonyme, d'accord.
Donc,
okay.
Alors, les gens ont cru que c'était la lettre A, mais non, en fait, c'est parce qu'ils étaient anonymes, et donc parce qu'ils n'avaient pas de nom, donc j'ai commencé par eux, ce qui n'était pas la chose la plus facile d'ailleurs, parce que forcément, il n'y a pas de grand auteur, sinon ils seraient connus. Mais j'ai trouvé pas mal de pièces très intéressantes. Là, la prochaine fois, le 30 novembre, ce sera sur les compositeurs de la lettre A. Fin décembre, alors la lettre B, j'en ai énormément, donc je pense que je vais faire au moins 3 concerts sur la lettre B. Puis dans B, il y a Bach. J'ai d'abord eu l'idée de ne pas faire un concert sur Bach, puisque beaucoup jouent du Bach. Et après, je me suis dit quand même, ne rien faire sur Bach... je vais être quand même très critiqué, puis c'est très difficile.
C'est un peu iconoclaste.
Et puis les gens l'attendent quand même, donc on va leur faire ce plaisir. Il y aura un concert entièrement dédié à Bach quand même.
Entièrement dédié. Et donc, ça sera à quelle date?
J'ai pas la date, mais c'est dans les suivants. Ah, si,
2026, donc.
Non, mais je peux vous le dire à peu près, parce que mes programmes sont déjà un peu faits pour 4 ou 5 concerts. Donc, le premier concert de la lettre B, c'est fin décembre. Donc, deuxième concert de la lettre B, ce sera fin janvier. Oui. Donc, naturellement, je pense que je mettrai Bach soit en troisième.
Fin février 2026, donc dernier dimanche. Ça tombera voilà. Quelle date? Tiens. Alors, voyons voir qu'on donne ça.
Je ne vais pas vous l'affirmer totalement, parce qu'il se passe que, comme on est déjà en carême, je fais toujours un petit clin d'œil aussi à la période liturgique.
Ouais.
Donc, fin octobre, je faisais un petit clin d'œil à Toussaint, qui était tout proche.
Ouais.
Là, le 30 novembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Donc, je vais jouer une petite partie sur la musique de l'Avent. Il y en a énormément. Fin décembre, évidemment, c'est Noël. Fin janvier, il n'y a rien de très spécial. Je pense que je continuerai sur le temps de Noël, qui est encore un peu présent. Les guirlandes sont toujours là, les illuminations.
On souhaite les vœux
jusqu'à la fin janvier. Donc je continuerai. Bon, il y a la musique de l'Épiphanie, les marches des rois, etc. Voilà. Donc après, on va peut-être tomber dans le crâne. Peut-être que le concert sur Bach sera mis une période plus creuse liturgiquement, donc éventuellement l'été. Voilà. Mais ça, c'est pas décidé. Mais il y aura un concert sur Bach, évidemment.
Alors, on rappelle, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Marc Méraud, donc l'orgue de A à Z, les heures d'orgue, l'orgue de A à Z, tous les derniers dimanches du mois, 16h30, c'est tous les mois de l'année.
Tous les mois de l'année.
Juillet, août, et
toutes les années qui se suivront, jusqu'à ce que je ne sois plus en état de le faire.
Oh, bah écoutez,
donc, tant que Dieu me prête vie, pour reprendre une expression.
Bah, Dieu va vous prêter vie longtemps, alors je pense, pour qu'effectivement on puisse vous écouter le plus longtemps possible. Donc on le répète, les heures d'orgue, l'orgue de A à Z, tous les derniers dimanches du mois, 16h30. Entrée gratuite, on insiste bien là-dessus, pour toutes celles et ceux qui viennent en pèlerinage à Lourdes, en visite, en touriste, etc. Quelle que soit la raison ou les raisons pour lesquelles on vienne à Lourdes, effectivement, dernier dimanche, ça vaut vraiment le coup de venir vous écouter, Marc Méraud, puisque vous y êtes depuis 1979. Et on explique donc aux gens surtout de ne pas venir vous voir au cours de sport, ils ne vous verront pas. il faut bien qu'ils viennent, effectivement.
Ne me cherchez pas dans les salles de sport. Par contre, un dernier mot sur le concert, il y a toujours des commentaires très pédagogiques et qui sont non seulement lus, mais écrits sur le programme et que vous emportez. Donc, de manière à ce que vous repartiez avec des petites connaissances, éventuellement, et surtout aussi, notamment aussi parce que l'église a une acoustique qui peut être quand même, qui résonne beaucoup. Donc, c'est aussi pour être sûr que tout le monde comprend bien la lecture des commentaires, chacun l'emporte.
Commentaire lu, ça veut dire qu'avant que vous jouiez un morceau?
Oui, il y a une petite explication.
C'est vous qui l'a faite ou c'est quelqu'un qui l'a?
C'est moi qui l'ai écrit. Mais pour être précis, c'est Mylène Fondecaf que vous avez reçue dans une de vos émissions précédentes.
D'accord, ok.
Qui me seconde dans ce travail. Par exemple, nous avons donné un concert à Séméac il y a quelque temps sur son livre sur les passeurs, justement.
D'accord.
Un concert, le texte entier intégral a été lu avec des morceaux d'orgue. Donc c'est un spectacle.
C'est original, un spectacle musical
et littéraire qui nous est d'ailleurs demandé parce qu'apparemment il a beaucoup.
Il faudra qu'on vienne faire une émission littéraire un jour en direct. Il faudra qu'on en touche un mot à notre technicien Philippe Subercaz, effectivement, parce qu'on pourrait faire ça, d'avoir des textes qui soient lus avec également de la musique derrière, ça serait particulièrement original. Merci beaucoup Marc Méraud d'avoir été notre invité aujourd'hui. Hein. Je rappelle une dernière fois, donc l'orgue de A à Z, tous les derniers dimanches du mois à 16h30, tous les mois de l'année, c'est gratuit. Voilà, Diego Arabal, ce qu'on pouvait dire. Et à la semaine prochaine. Merci.
Au revoir, Marc.
Merci, au revoir.
Au revoir à vous deux.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercaz.
Oui, mes amis, nous allons vivre. Et vivre fort, intensément. À ne regarder que devant. Vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Sans condition, vivre vraiment. sans peut-être, sans oui, mais attends. À tout bouffer, à pleine dent, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Les doigts en verre, la tête au vent. Le regard fier, le feu au sang. Le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre. Sans jamais perdre aucun moment. Jamais laisser filer le temps. En se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Vivre sans regret, sans tourment. Pliant peut-être, mais résistant. À toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh, mes amis, nous allons vivre. Et vivre sans anesthésie. Sans être abruti de calme. Vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre. Vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est qu'urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre. À tout donner, à tout venant. Sans calculer, presque inconscient. Car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir, oui.
Le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Dans un monde marqué par la fatigue intérieure et la course à la performance, le pape rappelle que le cœur humain n'est pas fait pour